vois pas de nouvelles personnes qui arrivent, en tout cas dans l'immédiat. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde au double titre un peu provocateur. À la retraite Harry Potter, et que reste-t-il de sa magie? On est moins de 4 ans après la sortie tant attendue du dernier roman, on n'est pas encore au bout des adaptations cinématographiques, puisque le dernier volet de ces adaptations, hein, deuxième film tiré des Reliques de la Mort va sortir cet été. Et pourtant, donc, il serait déjà temps renvoyer Harry dans son placard à balai, de le ranger aux côtés des vieilles choses poussiéreuses. C'est vrai qu'on est face à une œuvre et à un héros qui a accédé au statut de classique à une vitesse jamais vue jusqu'alors. Pratiquement immédiatement, on s'est intéressé à ce phénomène et on a commencé à l'étudier, y compris en cours, y compris dans des travaux universitaires divers et variés. Et donc, on l'a fait accéder très vite au statut d'objet d'étude possible, qui donc le transforme un petit peu par rapport à un héros de fiction ordinaire, transforme son destin possible. Donc, Harry a déjà... C'est vrai, une postérité, son destin appelle à une sorte de premier bilan. Donc c'est ce que je vous propose de faire en compagnie de trois invités que je vais vous présenter, qui sont des grands connaisseurs de l'œuvre de Rowling et ou de la fantasy énorme, notamment de la fantasy pour la jeunesse, et ou de la littérature de genre et de la... du roman populaire dans son ensemble. Les femmes d'abord. Isabelle Smadjan, plaisir d'accueillir. J'ai cherché mes informations sur Internet, hein, donc vous me direz. Et professeur de philosophie, chargé de cours en littérature de jeunesse.
Non,
vous l'êtes plus. À Nancy ?
Non.
À Nancy 2.
Je suis prof de philo à Épinal.
D'accord. Et les cours de littérature de jeunesse à Nancy, c'était...
C'était une charge de cours.
D'accord. Donc, professeur de philosophie, ici même...
Prenez
le micro. Elle est l'auteur d'un des premiers essais qui a été consacré à Harry Potter dès 2001, alors que les volumes étaient vraiment en train de paraître, hein, tout au début du phénomène. Harry Potter, les raisons d'un succès, que vous avez là, qui est paru au PUF, et qui est toujours un des plus convaincants, hein, dans son décryptage du fonctionnement de ces premiers volumes sur le modèle du conte merveilleux et de ce que ça implique comme rapport à l'inconscient, hein, au fonctionnement de l'inconscient, la lecture psychanalytique du conte merveilleux. Elle est aussi, dans cette même collection, l'auteur d'un ouvrage sur Tolkien ou la tentation du mal en 2002, et d'un troisième sur la promotion des héroïnes dans la littérature de jeunesse qui s'appelle Le temps des filles en 2004, et puis donc retour à Harry Potter pour ce deuxième ouvrage qui est un collectif qu'elle a co-dirigé avec Pierre Bruno, Harry Potter, Ange ou Démon, donc qui pose cette question, hein, qui ouvre ce débat avec un certain nombre de spécialistes pour savoir ce qu'implique, hein, ce qui a pu sortir du succès de Harry Potter, de bon et de moins bon, donc à la fois par exemple le retour, hein, à la lecture passionnée de la part de générations de jeunes lecteurs, mais aussi, hein, est-ce que c'est synonyme d'une tentation de l'infantilisation ou d'une évasion un peu facile vers d'autres mondes factices, etc. Donc, voilà, ça agite ce débat-là. Jacques Baudou, l'autre extrémité, est un grand érudit et spécialiste des mauvais genres, hein, qui est l'auteur, hein, des fameux que sais-je sur la fantaisie et la science-fiction, qui en ce moment est en train d'éditer, hein, de très belles encyclopédies chez Fedgen. Donc l'encyclopédie de la fantaisie est parue l'an dernier, et celle sur le fantastique et bouclé. Il a été très longtemps chroniqueur des genres de l'imaginaire pour Le Monde. Donc voilà, et c'est un des premiers, hein, à s'être intéressé à la fantaisie pour la jeunesse, à avoir proposé des études assez approfondies sur cette partie-là du genre.
Et le premier à avoir fait un article sur Harry Potter.
d'articles de journal.
Dans Le Monde.
Ouais.
Et alors, on pourra raconter justement une petite anecdote à ce sujet.
Très bien. Donc voilà, on a du suspense qui est instillé. Voilà, vous constatez qu'il maîtrise parfaitement les techniques narratives. Les... et enfin, donc André-François Ruau, qui est un autre grand spécialiste du genre, auteur, essayiste et éditeur aux Moutons électriques. Donc André-François Ruau, qui, à côté de ses cartographies et panoramas illustrés de la fantaisie, a consacré un certain nombre d'ouvrages des grands héros, avec une collection qui s'intitule « Les nombreuses vies d'eux », qui compte près de 20 ouvrages maintenant, et il a écrit ou coécrit « Les nombreuses vies » de Arsène Lupin, de Sherlock Holmes, de Nero Wolfe, et de Harry Potter, qui fait un peu tâche hein, dans ces héros plutôt de romans d'aventure ou de romans policiers.
Pas totalement, parce qu'il y en a un sur Dracula déjà.
D'accord.
Donc il y avait déjà un peu de fantastique.
Et un sur Frankenstein.
Et un sur Frankenstein, bien entendu. Donc il y avait déjà un peu de fantastique dans cette collection, effectivement, plutôt policiers et romans populaires.
Ouais, grands héros. De la tradition. Donc, pour débuter cette table ronde, je vais tout simplement reprendre les deux, le titre et le sous-titre, hein, donc Le petit sorcier à la retraite et Que reste-t-il de la magie Harry Potter. Donc d'abord, question Harry Potter à la retraite, que devient Harry Potter? Je n'attends évidemment pas de révélations croustillantes sur sa vie conjugale avec Ginny, mais est-ce que les romans...
Ils ont divorcé déjà.
...continuent de... parce qu'en plus, les nombreuses vies de racontent vraiment la vie du personnage comme s'il était réel, donc ça, ça fait un peu référence à ça. Est-ce qu'on sait ce que devient Harry Potter? Est-ce que les livres continuent de se vendre? Comment les lecteurs ont-ils vécu la fin du cycle, qui est toujours un moment d'espèce de petit deuil dont il faut qu'on se remette, etc. Voilà, est-ce que y a une postérité immédiate qui se prolonge de l'œuvre de Rowling? Est-ce qu'il y a d'autres romans prévus? Je t'en parle là encore de révélation, mais pour ce qu'on peut en savoir.
Oui, je peux peut-être répondre autour des fanfictions déjà, qui sont les fictions écrites par les fans qui reprennent la vie de Harry Potter, effectivement, qui la modifient, qui la transforment, qui essaient de voir dans des interstices du texte, essaient de reprendre une aventure, voir une aventure entre Rogue et parfois des aventures homosexuelles entre Rogue et... Harry ou entre Harry et Hermione. Vous avez... Alors je peux vous donner des chiffres si vous voulez parce qu'ils sont impressionnants. Harry Potter Fanfiction, qui est le site qui se présente comme le site francophone qui a le plus de fanfiction. Alors en 2008 par exemple, il y avait 3000 auteurs, 8000 fanfictions, soit un total de 42 000 chapitres. Et puis là hier j'ai regardé, 32 000 membres, dont 4 400 auteurs et 12 000 fanfictions, soit un total de 61 400 chapitres. Donc effectivement, c'est très
c'est
très
plus en expansion permanente.
Oui, c'est incroyable quoi. Donc effectivement, je crois que moi, ce qui m'a frappé, c'est le dynamisme que ce roman a insufflé, aussi bien au niveau vous le disiez, des études universitaires, avec un nombre quand même là aussi en expansion. De mémoires de maîtrise, voire de thèses, hein, d'articles, de chapitres dans des livres d'universitaires.
Et puis, ce qui était auparavant très rarement le cas. Hein, on est bien placé tous pour savoir connaître le problème de légitimité auquel pouvait se heurter ce type d'études. Et c'est vrai que Harry Potter a assez nettement transformé ça, sans qu'on ne sache forcément très bien pourquoi.
Oui, ça a été vécu comme un défi à l'interprétation quand même. Le succès a été vécu comme un défi à l'interprétation. Il fallait interpréter. Comment ça se fait? qu'est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était un succès usurpé, et à partir de là, tout ce qui a été, disons, tout ce à quoi ça touchait, littérature populaire, art de masse, mais aussi traduction de la littérature de jeunesse, tout cela a été matière à réflexion, et ça a donné, et puis malgré tout en même temps, il y a des éditeurs qui se sont, tous les éditeurs ont maintenant un secteur jeunesse. Paul a fait Petit Paul, Actes Sud. Bon, Actes Sud Junior a une impulsion supplémentaire. Donc, il y a eu effectivement une énorme, un dynamisme comme ça qui s'est.
Donc, prolongement de la vie et des aventures de Harry à travers les fanfictions, les contributions des lecteurs eux-mêmes qui n'ont pas envie que. Que l'histoire s'arrête et
mais de toute qualité, quoi. Ça va de très bonnes fanfictions à des fanfictions très très naïves. Et donc on a vraiment de toutes sortes de choses, quoi.
Et il y a toute une histoire aussi du rapport de Rowling avec les fanfictions, parce qu'elle a été très décisive à la fois dans l'impulsion de ce mouvement très important et dans les questions légales. Qui ont été soulevés autour de, puisque tous ces textes sont bien sûr protégés par des droits, hein, ils sont détenus par la romancière et pour certains d'entre eux par les studios. Hein, c'est en fait surtout quand les studios ont racheté les droits de Harry Potter que des questions légales ont commencé à être soulevées et il y a toute une histoire comment les fanfictions ont réussi à être autorisé avec toute une bataille pour obtenir ce droit entre les lecteurs qui se réclamaient de leur loyauté et de leur amour envers le texte et les affreux studios qui eux avaient les droits légaux sur ces textes et s'efforçaient d'en limiter l'accessibilité et la disponibilité. Et les fans, dans ce cas précis, ont gagné. Et ça, c'est aussi une étape assez intéressante de la manière dont les lecteurs ont pu s'approprier les textes qu'ils aimaient et développer tout un univers autour de ces textes. André-François, vous qui avez raconté l'histoire de la biographie de Harry Potter dans jour après jour, quasiment, j'étais très impressionnée de voir ça. Est-ce que vous avez continué à vous intéresser au devenir du héros ces dernières années?
Non, à son devenir, non. Le travail que j'ai fait s'inscrit de toute façon dans une collection qui s'appelle La Bibliothèque Rouge, où à chaque fois... au lieu de considérer des textes par-dessus, comme toute étude, normalement on lit le texte et on l'étudie, nous on essaie de le considérer de l'intérieur. Et c'est-à-dire lire les textes à la loupe. C'était les fans de Sherlock Holmes qui ont inventé ça, ils appelaient ça le « The Game ». Et nous on a décidé d'étendre ce principe à beaucoup de grands personnages mythiques de la littérature populaire. Et comme par ailleurs, j'avais travaillé pas mal d'années sur les littératures du merveilleux, et que au moment où j'écrivais différentes études sur la fantasy, il y avait ce phénomène que j'ai trouvé formidable d'une renaissance de la littérature jeunesse de fantasy à travers d'abord Philippe Pullman, puis le succès au cinéma du Seigneur des Anneaux, puis évidemment Harry Potter. Je me suis dit qu'il fallait j'avais envie d'étudier la fantasy pour la jeunesse et de l'intégrer dans cette collection, la Bibliothèque Rouge. Et donc, j'ai tout relu à la loupe. Et puis, surtout, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir que son cycle, J.K. Rowling, venait pas de nulle part, mais que ça s'insérait dans une vraie tradition. Qu'en fait la thématique de l'enfant orphelin qui fait l'apprentissage de la magie, ça semble vachement spécifique comme thématique, mais en fait c'est une thématique très large et qui existe depuis très longtemps. Vous avez, je suppose, tous vu Merlin l'Enchanteur de Walt Disney. Et bien ça s'inscrit, évidemment, c'est à une des bases de cette thématique. puisque c'est certains films de Walt Disney très célèbres, mais c'est avant c'était un grand roman anglais extrêmement célèbre également. Voilà, et donc il était assez.
T.H. White.
Voilà, par T.H. White, absolument. Il est assez. Il était presque. En fait, il était, le défi, c'est qu'il était trop facile d'écrire la bio. Parce que dans les romans, déjà, c'est pas au jour le jour, mais c'est décrit de manière très linéaire, très chronologique. Donc, le défi, c'était justement d'enrichir cette biographie de Harry qui est déjà très lisible directement dans les romans. D'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, je sais pas, sur Hercule Poirot ou sur James Bond, il faut vraiment regarder les textes à la loupe pour reconstituer le fil de la vie dans son bon ordre, etc. Donc là, au contraire, c'était presque trop facile, donc il fallait que j'enrichisse ça, et ça s'est fait fort aisément, parce que, en fait, l'œuvre de J.K. Rowling, elle semble simple, très accessible, bien sûr, très agréable, et en fait, elle est nourrie de manière formidable de toute une culture du merveilleux, de l'ésotérisme et du folklore anglais. Et il n'y a pas un seul, ça m'a sidéré en les relisant, il n'y a pas un élément, mais même la moindre allusion, est documentée, vraiment dans ces traditions-là. Et voilà, il a été facile comme ça j'ai voulu montrer quelles sont toutes les sources, quelles sont les références de tout ce qui se passe dans Harry Potter, et puis dans quelle tradition ça s'inscrit, donc depuis la genèse du roi Arthur jusqu'à Harry.
Et effectivement, l'ouvrage est vraiment très riche, hein, de multiples sources possibles, directes ou indirectes, avec parfois des choses très frappantes. Moi, les couvertures des ouvrages de Neil Gaiman sont des... qui donnent une première image visuelle, mais exactement de Harry, avec la chouette derrière, etc.
Oui, c'est des bandes dessinées, The Books of Magic. Et le personnage, donc c'est une bande dessinée dont les premiers tomes sont scénarisés par Neil Gaiman. Et Tim Hunter, son personnage, c'est un jeune apprenticien de magie, et il a exactement le même look que Harry quelques années plus tard. Hein, vraiment les lunettes rondes, la chouette, effectivement, c'est frappant. Aussi bien Rowling d'ailleurs, et il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de prétendre que Rowling a été pompée, hein. Vraiment pas. Et aussi bien Rowling que Gaiman ont toujours défendu l'idée selon laquelle, simplement, ils sont arrivés aux mêmes conclusions, aux mêmes créations, avec des sources semblables.
Alan Garner a écrit...
Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Alors bon, Alan Garner, vois-tu, le problème c'est que j'en ai pas trop parlé. Ouais. J'y ai fait allusion, mais comme c'est pas traduit en français... Je les ai relus, les Alan Garner. C'est un grand écrivain anglais de merveilleux pour la jeunesse, justement des années 70 essentiellement. Mais nous, en France, on ne le connaît pas et il n'est toujours pas traduit. Alors, malgré la frénésie qui s'est emparée des éditeurs pour traduire des tonnes de choses de fantasy, Alan Garner, il est malheureusement passé à travers. Donc, dans les nombreuses vies d'Harry Potter, j'ai fait allusion effectivement aux trois romans principaux de Garner, mais. Mais juste en passant, parce que je ne pouvais pas surcharger mon texte de références qui, pour les lecteurs français, seraient exagérément obscurs. Déjà, Tim Hunter de Neil Gaiman en France, on ne peut pas dire que ça soit super connu.
Oui, c'est quand on voit les images qu'on est vraiment frappé. Et donc, Rowling s'inscrit dans une tradition de la fantasy jeunesse extrêmement riche. Tu veux rebondir là-dessus, Jacques, ou nous présenter ta fameuse anecdote?
Oui, ça va venir... De suite, oui, le succès de... Moi, j'appelle ça le succès Pullman, enfin l'effet Pullman Potter, parce que, en tout cas pour ce qui concerne la France, mais en Angleterre, j'étais à Londres pour le travail à différentes époques, au moment de Noël, plusieurs fois dans les années de parution, on avait les deux ou trois romans de Pullman qui étaient sortis à ce moment-là, les trois ou quatre romans de J.K. Rowling et en tête des listes de vente et derrière très loin les autres livres pour la jeunesse, donc il y a eu un effet conjoint et cet effet conjoint il a été également réel pour la France puisque Gallimard Jeunesse a sorti la même année le premier volume des Royaumes du Nord et le premier Harry Potter. Et il y a quand même une différence assez importante, c'est que dès le début, les Royaumes du Nord sont sortis en grand format, en hardcover, et que le premier Harry Potter est sorti dans la petite collection de poche. Et alors moi j'étais simple pigiste au monde des livres, hein, j'étais chroniqueur mais pigiste, et la responsable des pages jeunesse dans le journal a choisi de traiter Pullman, et elle m'a dit, bah écoute, tu fais Harry Potter. Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire le premier papier sur Harry Potter. J'aurais pu aussi faire le premier papier sur Philip Pullman. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore, c'est de voir ce qui s'est passé avec Harry Potter éditorialement. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, on est passé d'une édition de poche en France pour Harry Potter à une édition en hardcover.
Et les volumes, ce sont... le troisième ou quatrième volume.
Ouais, ce sont devenus de plus en plus gros. Alors évidemment, cet effet Pullman-Potter, ce qui est, il apparaît à un moment précis, il faudrait étudier pourquoi à ce moment-là, mais effectivement, ces deux livres, André-François l'a dit, ils ne sortent pas de nulle part. Il n'y a jamais de génération spontanée, hein, ni en biologie, ni en littérature. Hein. ça n'existe pas. Mais ils s'inscrivent dans une tradition littéraire qui est très ancienne. Et quand on a à faire des livres sur la fantaisie, essayer de retracer l'histoire de la fantaisie, quand on aborde le territoire de la fantaisie jeunesse, on s'aperçoit que les racines de la fantaisie viennent de là. C'est-à-dire quels sont les grands auteurs de fantaisie au 19e ? C'est Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, c'est James Barry avec Peter Pan, et c'est Kenneth Graham avec Le Vent dans les Saules. Et puis... derrière tout ça, après ces trois auteurs, eh bien, il y a toute une tradition du roman merveilleux que détaille en partie André-François avec les auteurs qui ont été traduits en France, mais on suit un fil tout à fait continu de romans merveilleux jusqu'à Harry Potter, y compris très peu de temps avant Harry Potter, un auteur qui a été traduit en France, Diane White Jones, qui est quand même un des grands, grands auteurs de merveilleux. D'ailleurs, elle a été illustrée par M. Miyazaki, ce qui vous prouve à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire.
Le château ambulant.
Ouais. Et une dernière chose que je voulais dire, mais il faudrait y revenir un petit peu plus, parce que la magie Harry Potter, elle passe aussi par le cinéma, et là, il y a un certain nombre de choses à dire. Et ce qui fait la différence entre Pullman et Potter maintenant, c'est que d'un côté... il n'y a qu'un film tiré du premier roman de la trilogie, qui n'en a pas eu ni un deuxième ni un troisième, et que par contre, le cycle complet d'Harry Potter a été adapté et tourné au cinéma, et avec un parcours cinématographique extrêmement intéressant, mais on y reviendra peut-être.
On peut partir dans cette direction, donc... Harry Potter n'est donc manifestement pas parti pour être un retraité tranquille. Et donc la deuxième question, c'est que reste-t-il de sa magie ? Et donc je pense qu'on a vraiment là des boulevards qui s'ouvrent devant nous, puisque l'impact hein, de la parution de Harry Potter a été énorme, il a été protéiforme, il a pris de nombreuses et diverses formes. Il a été donc vous commenciez à l'évoquer à l'origine de transformations profondes du marché à la fois de la littérature pour la jeunesse et de la fantasy, qui se sont ensemble modifiés sous cette espèce d'impact planétaire qu'a été le phénomène Harry Potter.
Oui, bon, je pense en même temps que, en plus des racines dans la fantasy, hein, Harry Potter tire ses racines. Hein, si on prend Marthe Robert disant roman des origines, origine du roman, c'est le roman familial, c'est l'orphelin résilient, avec qu'on trouve aussi en dehors de la fantasy. Donc il reste que même si on peut retrouver, et vous l'avez dit, on peut retrouver effectivement dans la fantasy un certain nombre de références, un grand nombre de références, il reste malgré tout d'autres références. Hein, elle tire aussi à mon avis, ces références elle brasse énormément de références. Elle brasse la mythologie, elle brasse effectivement le roman policier. Donc, je verrais plus l'orphelin résilient, l'orphelin maltraité, qui malgré tout trouve le moyen, soit de créer, soit dans son imaginaire, soit de découvrir une famille une famille célèbre, et donc de se sortir de sa position d'orphelin pour aboutir à quelque chose de merveilleux. Et en même temps, ce qui a été, à mon avis, extrêmement intéressant, c'est que le conte de fées que raconte Rowling, c'est aussi le conte de fées de l'auteur. Quand on regarde, il arrive quelque chose de très proche à Rowling elle-même, en tant que divorcée, mère élevant seule sa fille, mère pauvre, il lui arrive quelque chose de très proche de ce qui arrive à son personnage. Finalement, elle arrive en très très peu de temps, elle passe de ce statut de mère vivant seule, élevant dans des conditions assez, assez pauvres quand même son enfant, elle passe à une célébrité extraordinaire, tout comme son héros, passe à cette célébrité extraordinaire. Si bien qu'il y a aussi une manière de penser le conte de fées s'introduisant dans le réel, dans le monde réel, qui a, sans doute alimenté l'industrie du rêve, quand même, il me semble. Hein. Et donc,
il y avait une belle histoire à raconter autour de ça.
Autour du parallélisme, comme cela, hein, qui fait que les deux contes de fées se rapprochant, on peut se demander dans quelle mesure ça n'a pas été à l'origine aussi de ce succès. Le rêve, la résilience de cette femme, qui est aussi une femme résiliente, et la résilience de son héros, et tous les articles de journaux citent dans les premières pages du tome 1, le moment où je crois que c'est Hagrid qui se révolte, comment tu ne sais même pas qui tu es, mais tous les enfants du monde connaîtront bientôt ton nom. Et donc on cite ça pour inscrire, si vous voulez, le conte de fées dans le monde réel, en disant finalement cette intrusion du conte dans le réel, c'est extrêmement rassurant, c'est une manière effectivement d'alimenter l'industrie du rêve.
C'est effectivement ce qui s'est passé. Voilà, oui. Il y a toujours effectivement il y a un côté prophétique du début du premier volume.
C'est en cela d'ailleurs que le cycle d'Harry Potter, il a transformé la fantasy. C'est qu'il s'inscrit dans le réel. C'est-à-dire qu'au lieu d'être de la fantasy dans un univers parallèle comme Le Seigneur des Anneaux ou les Philip Pullman, même si chez Philip Pullman ça ressemble fortement à notre univers, bien sûr, mais brusquement, c'est aussi une chose qui m'a passionné lorsque j'étudiais la fantasy, puis qu'il y avait brusquement ce phénomène qui surgissait, c'est que c'était de la fantasy urbaine, c'est de la fantasy inscrite dans notre monde. Il y a eu depuis d'autres phénomènes qui sont semblables. Je pense à la mode des vampires urbains, la bitlit, qui est du fantastique urbain, donc inscrit dans notre monde. Mais ça a vraiment changé le paysage de tout un pan de l'imaginaire. C'est que brusquement, il devenait légitime et tout à fait ordinaire d'inscrire des fées, en quelque sorte, ou de la magie, dans notre univers à nous. Alors qu'avant, c'était une petite branche souffreteuse de la fantasy, avec des bouquins pas connus, et brusquement, J.K. Rowling, elle a réenchanté le réel. Soudainement, elle a remis la magie dans notre univers.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Tu me permettras, on n'avance pas, parce que Poudlard, tu le situes où sur la carte d'Angleterre? Pas un monde secondaire.
Ah bah excuse-moi, mais elle ne se situe pas sur la carte d'Angleterre, puisque c'est en Écosse, voyons. Oh là là, vous rendez compte, ils confondent l'Écosse et l'Angleterre. Non, Poudlard est en Écosse, hein, clairement. Hein.
Mais donc, ça existe sous une carte
Écoute, non, puisque c'est les cartes que toi et moi consultons. C'est des cartes de Muddles, je sais pas comment on dit en français. Je suis désolé, j'ai lu en anglais. Je ne connais pas la traduction des termes.
Des Moldus.
Des Moldus, voilà. Nous sommes des Moldus, donc on ne peut pas le trouver sur la carte, voyons. C'est sur une carte pour les mages.
Pour les mages.
Mais justement, dans mon bouquin, Je l'illustrais notamment de photos d'Écosse. Et ça, c'est un côté, je trouve les films globalement médiocres, mais au niveau du décor, les films sont très chouettes, parce que le Poudlard, enfin Hogsworth, dans les films, est bien en Écosse, a bien un look écossais. J'aime beaucoup le look de cette école de magie dans les films.
Isabelle, vous interprétez comment la localisation de Poudlard ?
Oui, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire au merveilleux du XXIe siècle. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est un ouvrage qui a eu aussi son succès du fait qu'il parlait à la génération des screenagers. Comment il a parlé à la génération des screenagers ? Hein, parce qu'elle a énormément... disons, utiliser la téléportation, donc les mots de passe, tous ces portraits. Regardez la cape d'invisibilité, on peut être invisible tout en étant présent sur un site. Regardez le portrait de la grosse dame, qu'est-ce qui se passe avec ce portrait ? Eh bien, il faut donner le mot de passe. Si vous n'avez pas le mot de passe, si vous avez oublié le nom de connexion, vous n'entrez pas dans la chambre. Il y a énormément de choses. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a disons, multiplié justement tous ces chemins de traverse où on peut être à un endroit et puis ensuite très rapidement à un autre. Pour moi, vraiment, il s'agissait de trouver le merveilleux du XXIe siècle. Et elle est parvenue malgré tout à, disons, ouvrir, trouver des métaphores qui permettent de trouver l'imaginaire qui s'applique à l'univers du numérique. Donc, j'avais repris l'exergue de l'essai de Roger Highfield sur Harry Potter et la science. Il dit « Toute technologie parfaitement au point donne une impression de magie ». Moi, il m'a semblé quand même que la mutation numérique a été tellement brutale, elle ne nous a pas laissé le temps de nous y accoutumer, et par conséquent, il y a quelque chose de l'ordre du merveilleux qui nous apparaît quand on, effectivement, le fait qu'on puisse avoir accès par Google en une ou deux secondes à toutes les références, etc., il y a quelque chose de l'ordre du merveilleux, et donc il y avait cette espèce de demande pour expliquer par le merveilleux un certain nombre de technologies numériques qu'on n'a pas encore complètement assimilées, si vous voulez. Et d'autre part, il y avait de la part de Rowling cette capacité à intégrer un certain nombre de choses. Regardez la carte du maraudeur. Qu'est-ce que c'est que la carte du maraudeur ? C'est une carte, quand vous avez le mot de passe, vous voyez, hein, quand vous avez le mot de passe, vous arrivez...
C'est un GPS.
C'est un réseau de vidéosurveillance. C'est mieux qu'un GPS.
C'est vrai,
réseau de vidéosurveillance.
Oui, c'est le vidéo.
Pour moi, c'était l'essentiel du succès. De plus en plus, je me dis, finalement, l'essentiel venait de cette capacité à parler du numérique et donner des métaphores.
Oui. Ouais.
Ou plus largement de cette espèce d'aller-retour entre merveilleux et réalité et de donner forme à une espèce de magie de notre monde.
En utilisant des mots médiévaux, donc avec cette capacité qu'elle a malgré tout à cacher ses références avec une intersexualité très riche qui fait que...
Intersexualité.
L'intertextualité, ça veut dire dans le texte, vous avez des références à un autre texte, c'est-à-dire les références aux sirènes, Touffu, le chien à trois têtes qui fait référence au gardien des enfers, donc au chien qui garde les enfers. Donc ça, c'est l'intertexte, si vous voulez. C'est à l'intérieur du texte, on a une référence à un autre texte. Et tous les fans ont dit leur plaisir à retrouver tout ce qui était caché. Vous en avez parlé, il y a énormément de détails, etc. Ils ont dit leur plaisir à cette intertextualité, parce que le plaisir de l'intertextualité, ça vient justement de ce qu'on sent, que nous on l'a vu, ou des fois on sait qu'on l'a vu, et on se dit d'autres ne l'ont peut-être pas vu. Et donc ce jeu autour de l'intertextualité était extrêmement fort, a été extrêmement fort chez Rowling.
D'ailleurs, moi j'ai cru voir quelque chose, et personne n'en a jamais parlé, alors j'ai peut-être vu la berlue. Mais Poudlard en anglais c'est Hogwarts. Et J.K. Rowling a jamais dit d'où l'avait créé ce mot bizarroïde tordu. Alors, il y a des fans qui ont pensé que ça venait de la plante Hogwart. Alors, je ne sais plus ce que c'est comme plante, mais enfin, c'est une petite plante rampante sans intérêt et qui n'a pas de...
qui n'a pas de vertu particulière.
Oui, qui n'a pas de vertu médicinale, chimique ou quoi que ce soit, ou symbolique. Donc, franchement, c'est du creton, je crois, ou une plante comme ça, enfin, aucun intérêt. Moi, ce qui m'a frappé, mais bon, je me demande, est-ce que je suis fou ? Parce que personne ne l'a dit, alors, soit je suis fou, soit je suis génial.
Dans c'est les la part d'interprétation individuelle de chacun. Voilà.
Tu nous diras tout à l'heure ce que tu en penses. Non, en fait, ça m'a frappé, c'est que de des sources qui me semblent absolument évidentes de cette tradition, je vous ai dit tout à l'heure la jeunesse d'Arthur. C'en est une autre aussi. Je peux faire référence aussi à un film de Walt Disney, à savoir Taram et le chaudron magique. Taram et le chaudron magique, c'est un cycle de romans tiré des mythes gallois et qui est très connu en Angleterre. Bon, encore une fois, malheureusement, ça n'a pas beaucoup été traduit, ça, c'est pas très connu en France.
Ça a été traduit. En
fait. Oui, ça a été traduit, mais enfin, c'est oublié.
Les
chroniques
d'Alexandre.
Voilà, merci
qui est
à toi.
Un auteur américain.
Ouais, et ça a eu beaucoup de succès dans la culture anglo-saxonne, mais en France, ça a été traduit effectivement, mais on l'a oublié, puis bizarrement, on ne l'a pas réédité. Alors que bon, ça pourrait cartonner, à mon avis, ils sont complètement idiots, nos éditeurs, ça pourrait cartonner, évidemment. En plus, c'est déjà traduit, ça leur coûterait pas cher. Mais bref, quel élément symbolique de la magie de Taram ? C'est son cochon magique. Comment on dit un cochon en anglais ? En vieil anglais ? Og. Et quel est le surnom d'Arthur lorsqu'il est jeune ? C'est moustique, mais en anglais, c'est wart. Og, wart. Alors bon, je sais pas, moi ça me crève les yeux qu'elle a désigné le nom de son école de la racine même de son imaginaire, savoir ces deux personnages-là. Voilà. Et alors je suis fou, je suis génial.
C'est génial.
C'est mon éditeur alors.
Alors, Jacques, tu voulais. On enchaîne sur les écrans, donc qu'est-ce que ça a changé dans la réception
à faire sur les écrans. Alors, je ne partage pas l'avis négatif d'André-François Ruault sur les films. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'histoire des adaptations. Et c'est assez intéressant. Puisqu'on fait appel, c'est une production Warner Bros., donc une majeure compagnie américaine, et on fait appel pour faire les adaptations à un des plus grands scénaristes du cinéma américain, qui est passé d'ailleurs lui aussi, qui a fait deux films absolument merveilleux, qui s'appelle Steve Kloves. Et on fait appel à un réalisateur américain qui s'appelle Chris Columbus, qui fait les deux premiers films, qui est surtout connu parce qu'il a fait ses histoires avec le Hamin, la Gérard Télé, etc. Lui, c'est peut-être un bon scénariste, je n'oserais pas le jurer, mais comme réalisateur, il n'est pas terrible. Et puis, dès le troisième, on fait appel à des réalisateurs qui sont des réalisateurs beaucoup plus doués. Hein, Alfonso Cuarón, qui est un réalisateur mexicain, qui fait le troisième. Et là, cinématographiquement, c'est beaucoup plus brillant. Et puis, on se dit, quand même, un réalisateur mexicain, pour faire quelque chose qui se déroule en Angleterre, si on faisait appel à des réalisateurs anglais. Et depuis, c'est des grands réalisateurs anglais. Mike Newell, c'est pas n'importe qui. Et surtout David Yates, qui vient de la télévision anglaise, qui a fait une mini-série absolument géniale qui s'appelait Sex Crime, qui a fait les derniers épisodes. Et il semble un peu normal que ce soit des réalisateurs anglais qui dirigent ces films-là, d'autant que la distribution est entièrement faite avec des acteurs britanniques. Et tous les grands acteurs britanniques de cinéma...
C'est Rowling qui a beaucoup insisté sur ce point, je crois, hein, qui avait exigé que ce soit une distribution entièrement anglaise, que ça se tourne sur le sol anglais, que, voilà, qu'un maximum de choses soient quand même reliées à son pays et non pas accaparées par l'industrie nord-américaine. C'est aussi une des... J'ai l'impression, un des phénomènes qui a été déclenché par Harry Potter, c'est ce phénomène d'adaptation systématique des gros succès de la littérature jeunesse et en particulier de la fantasy jeunesse. On a eu vraiment une série d'adaptations, alors qu'ils n'ont pas toutes rencontré le succès public escompté, sans doute parce que, comme d'habitude, l'industrie culturelle a eu les yeux plus gros que le ventre et en a proposé trop sans les travailler suffisamment, et donc le Eragon était vraiment raté, le Pullman était assez raté.
Moi, mon grand regret, je ne sais même pas comment s'appelle le film, il est épouvantable, c'est l'adaptation d'un des romans de Suzanne Cooper.
The Dark is Rising.
Je sais.
Il est passé en France, on l'a peut l'acheter en DVD.
Ouais, je l'ai vu.
Et sous le titre The Dark is Rising.
Non, je ne sais pas comment il s'appelle. Je suis désolé de pas bon, c'est un navet. Mais il est bien passé en France. Non, pourquoi je suis désolé, c'est que ce cycle n'est pas traduit en France à part un volume. Oui, effectivement, bizarrement, en plus, ça a été traduit deux fois, c'est du n'importe quoi. Bon, c'est le plus beau roman de la série. Ceci dit, comment il s'appelle maintenant? Il s'appelait L'Enfant contre la nuit, mais je ne sais pas comment s'appelle la nouvelle édition. Il est chez Folio Junior. C'est par Suzanne Cooper. Désolé, je ne connais pas le titre français actuel. C'est un très très beau roman.
L'Enfant des ténèbres, quelque chose comme ça.
Ouais, L'Enfant des ténèbres. Oui, ça doit être ça. Ouais, t'as raison. C'est un très 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 beau roman de fantasy, je vous le conseille vraiment. Moi, c'est une frustration en tant que lecteur français. Bon, je lis en anglais, hein, je pourrais être snob et dire bah, tant pis pour vous, mais en fait, ça me frustre quelque peu, et notamment de ne pas avoir pu, dans mon propre Les nombreuses vies d'Harry Potter, là aussi, c'est comme Alan Garner, j'y ai fait allusion, j'en ai parlé un peu, mais je ne pouvais pas en parler beaucoup parce que de toute façon, sinon mes lecteurs ne sauraient pas de quoi je leur parle. Et c'est un cycle en 5 volumes. Et qui est très très beau, et je regrette que là pour le coup le cinéma n'ait pas réussi son coup et pas lancé. Bon, c'est pour les dans la culture anglo-saxonne, ils s'en fichent parce que c'est des bouquins qui sont best-sellers depuis les années 70, hein. Donc c'est vraiment extrêmement célèbre. Mais ça aurait été bien si qu'il y ait eu un succès au cinéma pour que peut-être les éditeurs français nous les traduisent. Hein.
Oui, il n'y a pas eu de succès a priori très équivalent à celui de Harry Potter. Est-ce qu'au niveau des livres, pour quitter les sources et finir un peu sur une ouverture, hein, sur les épigones, sur les successeurs, est-ce qu'il y a des auteurs, soit des mouvements qui vous semblaient particulièrement intéressants dans la postérité de Harry Potter, parmi ces très nombreux, hein, Harry Potter à la française ou Harry Potter pour adultes, hein, qu'ont essayé de nous vendre, parce que ça a été très souvent marketé de cette façon-là, hein, vendu par le marketing. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été proposées pour prendre la suite de Harry Potter d'une manière ou d'une autre.
Ah ben, il y en a un, oui. Je suis en train de chercher le nom. Décidément, j'ai des problèmes avec les titres, excusez-moi. Et c'est une belle histoire. Vous parliez de la belle histoire de J.K. Rowling, à juste titre. Il faut savoir que J.K. Rowling, le bouquin a été refusé par tout le monde en Angleterre, et que ça a été publié par un petit éditeur, bon, bien installé, mais quand même un petit éditeur, Bloomsbury, éditeur intello, surtout spécialisé dans la poésie, mais qui avait un département jeunesse. C'est eux qui ont publié J.K. Rowling. Ça a fait leur fortune, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, parce qu'ils ont utilisé leur argent de manière extrêmement intelligente. Ils ont réédité en Angleterre quelques auteurs que j'adore et qui étaient devenus invendables. Enfin, ils ont vraiment fait un bel usage de leur argent. Et notamment, ils ont investi massivement dans un auteur qui est Susanna Clarke. C'est au livre de poche maintenant en France. C'était chez Robert Laffont, grand format. Ça s'appelle Jonathan Strange et Mister Norrell. Ça, c'est du Harry Potter pour adultes. Et c'est merveilleux que ça soit paru parce que Susanna Clarke... écrivait très 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 lentement quelques nouvelles, et donc ce roman, elle a mis je sais plus combien de temps, mais 12-13 ans à écrire ce roman. Faut dire que c'est un pavé énorme. Malheureusement, on n'est pas prêt de voir la suite parce qu'elle écrit la suite tout aussi lentement. Enfin, c'est bien pour le résultat, mais en attendant, on attend. Et c'était vraiment pas un auteur commercial du tout, Susanna Clarke. Elle était publiée notamment par une des invitées du festival, à savoir Hélène Kushner. Hélène l'a publié dans des anthologies aux États-Unis. C'était un petit auteur, vraiment un télo, enfin, supposé être un télo, en fantasy. Et puis Bloomsbury, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais Bloomsbury non seulement a acheté le roman de Susanna Clarke, mais a fait un battage publicitaire mais monstrueux, à savoir qu'ils ont publié le roman avant sa parution. Si, si, ça a un sens, cette phrase. À savoir qu'ils l'ont publié une première fois comme si c'était un vrai livre, quoi, et qu'ils ont inondé la presse internationale et les éditeurs internationaux. Moi, je l'ai lu pour les éditions de Noël à l'époque, donc j'ai cette version-là, chic alors. Mais elle est un peu abîmée. Mais il paraît que ça vaut super cher sur eBay maintenant. Donc, ils ont vendu les droits à l'étranger partout. Une fortune, parce qu'ils ont fait monter les enchères. Justement, c'est pas de Noël qui a eu les droits en France, parce que ben, ils n'étaient pas assez riches. Et donc, c'est une association entre Livre de Poche et Robert Laffont qui a emporté le morceau. Qui était d'ailleurs une association contre nature, parce que c'était deux éditeurs de deux groupes différents qui se sont associés, ce qui arrive absolument jamais d'habitude. Et ils ont publié en anglais le Susanna Clarke, donc Jonathan Strange et Mr. Norrell. Ils l'ont publié en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis dans le même look et simultanément. Voilà, ils ont fait un bâtard et ça a fait un gros succès. Et
ça a eu des prix.
C'est super beau.
Il y a, dans le même ordre d'idée, avec Jacques, on a beaucoup aimé cette année Les Magiciens de Lev Grossman, hein, qui était nominé pour le prix du meilleur roman traduit, qui retravaille à la fois Harry Potter et les chroniques de Narnia pour adultes, qui raconte le destin de jeunes gens qui se retrouvent dans une école pour magiciens.
On peut penser aussi à, par exemple, Stephen Hawking, donc le scientifique, qui écrit le Prince des Nuages, et puis surtout Georges et les secrets de l'univers, Georges et les secrets du cosmos, c'est-à-dire on se rend compte même des gens qui sont plutôt scientifiques, on s'attend peu à les voir entrer dans l'univers de la fantaisie, et ils proposent des livres tout à fait intéressants pour les enfants. Donc il y a eu effectivement
il y a aussi un investissement de la littérature de jeunesse, sans compter les énormes succès de grands cycles consacrés à les héros et plutôt des héroïnes magiciennes, qu'on va pas recommander pour leur qualité énorme, mais qui sont de vrais succès. Moi, je vois mes étudiants aiment beaucoup Tara Duncan depuis des années. Il y a un grand mouvement autour de Tara Duncan qui a été présentée comme la Harry Potter française. Voilà. C'est peut-être un peu moins bon, je te l'accorde. Est-ce que vous avez des dernières choses à ajouter ou est-ce qu'on laisse quand même
je voudrais bien dire où se situe la vraie magie Harry Potter.
Ah.
La vraie magie Harry Potter, elle se situe en France avec les éditeurs. Parce qu'au Monde, on m'a demandé de faire à un moment une enquête sur la littérature jeunesse. On sortait du moment chair de poule, et puis arrive le succès à la fois de Potter et de Pullman. Et donc j'ai interviewé des écrivains pour la jeunesse de mon domaine que je connaissais, qui étaient Gudule et Serge Brussolo, qui à ce moment-là commençaient à sortir une série qui s'appelait Peggy Sue, et on a fait 5 volumes.
Et alors, Sigrid et les mondes engloutis. Ouais.
Il m'a raconté quand même les deux, hein, c'est à la fois Gudule et Brussolo, et donc je pense que les témoignages se recoupaient. Brussolo m'a raconté l'anecdote suivante. Il est arrivé chez plusieurs éditeurs avec Peggy Sue, une histoire qui se passe aux États-Unis dans une famille. L'héroïne est une préadolescente ou une adolescente. Le père travaille sur des chantiers, donc il est souvent absent. Et les deux filles ont la mère à charge. Parce que la mère, c'est un adulte, pas comme ça arrive dans la vie réelle. Et à chaque fois, les directeurs ou les directrices, c'était essentiellement des directrices de collection dans ce secteur-là, c'est toujours d'ailleurs, lui disaient « Oh là là, mettre en scène une mère qui n'assume pas ses capacités, c'est pas bien, ça, c'est pas possible dans un ouvrage jeunesse. Et puis tu nous as fait un roman de 250 pages et de tant de signes, nos petites têtes blondes, elles peuvent pas dépasser 150 pages !» Et puis, les chères petites têtes blondes, quelques temps après, elles se tapaient des pavés de 600 pages, simplement avec des histoires qui les intéressaient. Alors, la vraie magie Harry Potter, elle est là, c'est que d'un seul coup, on s'est débarrassé d'une vague de la littérature. C'est Pierre Dudouis qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit « J'ai abandonné la littérature jeunesse parce que on me demandait de faire des bouquins qui étaient à la mode. C'était « Mes parents divorcent »,« Mon tonton se paxe », etc. » Il y a eu ça aussi. Et donc, le retour, la magie Potter, la magie Pullman, c'est que d'un seul coup... le merveilleux est revenu en force dans la littérature jeunesse, que d'abord c'est passé par des auteurs anglo-saxons, parce que derrière Pullman et Rowling, il y a des auteurs de toute première importance, par exemple, pense à Chris Wooding, je pense à Jonathan Stroud, enfin bon, il y a eu vraiment, plus tard, Ian Hearn, etc., il y a vraiment une vague, et puis surtout, on a vu apparaître, c'était sans doute la première fois, André-François me contredira si je dis une énormité, mais on a vu apparaître pour la première fois des auteurs français de fantasy jeunesse, avec Eric Lhomme d'abord, puis Pierre Bottero, etc. Et si vous allez faire un tour à la bulle du livre, l'effet Potter est toujours là. Vous verrez, il y a plein de livres de fantasy pour la jeunesse.
Et puis pour sa descendance, parce que c'est le sujet, n'est-ce pas apparemment, J.K. Rowling travaille sur une encyclopédie Harry Potter.
Oui, son lexicon.
Ouais, voilà.
C'était là-dessus, effectivement, porté pour procès. C'était ouais. Avec oui, l'encyclopédie absolument. Harry Potter qui a oui. Effectivement voilà. Toute une. La recherche des origines des noms est ouais. Magnifique, voilà. Fabuleuse. Ouais.
Oui, oui, parce que là, pour une fois, elle a fait un procès, parce qu'effectivement, ouais. Ce bouquin-là lui coupait à elle-même l'herbe sous le pied, donc ouais. C'était déloyal, quoi. Et moi, j'attends avec impatience de lire l'encyclopédie rédigée par Rowling, parce que de toute évidence, c'est la mieux placée pour connaître son univers. Et voilà,
et
on
elle
va connaître. Voilà, puis elle va rajouter des choses, on va apprendre des choses supplémentaires dans les interstices des entrées de l'encyclopédie. Ça sera.
C'est pas sûr qu'on soit mieux placé pour connaître son univers. Non, mais.
J'aimerais bien qu'elle. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle écrira autre chose.
Voilà. Parce que elle vient d'annoncer qu'elle écrit un roman, je pense.
Ah oui, ah oui.
Ouais.
Ça, parce que
mais
la
c'est
pauvre,
pas un roman de fantaisie.
Ah ouais.
Et elle a dit elle-même, allez voir parfois dans le lexicon, elle l'a admis elle-même, allez voir dans le lexicon oui. Des fans pour retrouver sa propre. Ce à quoi elle a pu penser.
Des influences inconscientes.
Ah, tout à fait, non, mais elle en parlait, quoi.
Bon, je vous coupe pour laisser quand même le temps d'une ou deux questions. Avant la prochaine table ronde que j'anime également. Donc, si vous voulez prendre la parole sur ce sujet qui, en général, intéresse quand même les lecteurs présents, partager des expériences ou faire des remarques, n'hésitez pas. Oui. Parlez bien fort. Alors
oui, il y a une identification. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il il entre peu à peu? C'est-à-dire peut-être que l'insuffisance, le fait que le roman ait en plus, a révélé quand même les insuffisances de l'édition et de la littérature de jeunesse jusqu'alors en France, en tout cas, et sans doute dans le monde. Puisque, alors, est-ce que c'est parce qu'il donne des clés pour expliquer l'univers? Est-ce que c'est parce qu'il y a un passage de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, et puis un rapport aux adultes, entre enfants et adultes, avec de la transgression, du respect, mais aussi la capacité de leur parler à égalité, qui est plus conforme au rapport que les enfants ont aujourd'hui aux adultes, Je ne sais pas. Il y a aussi le fait que, oui, c'est un orphelin, mais bon, cela, c'est pas vraiment... Encore que tous les psychologues ont dit, beaucoup de psychologues se sont intéressés, ont dit, finalement, dans leur consultation de psychologie, il y a énormément d'enfants qui ont des problèmes et qui viennent et qui prennent comme modèle et qui s'appuient sur Harry Potter, hein, qui ont retrouvé en Harry quelque chose de très fort. Est-ce que c'est cela ? Est-ce que c'est aussi le fait, moi j'avais fait le rapprochement entre La Croisée des Mondes et Harry Potter en disant, dans les deux cas, on a un ouvrage où c'est un enfant de 11 ans qu'on demande de sauver le monde. C'est quand même assez incroyable que, qu'il y ait comme ça des adultes qui viennent, voilà, c'est lui notre sauveur. Comme si eux-mêmes avaient baissé les bras complètement face à cette, en se disant, bah, nous on n'y arrive pas, il faut attendre des enfants qu'ils viennent nous sauver, alors soit de Voldemort, soit de toute la menace qui plane autour de la Croisée des Mondes. Donc là encore, il y a plein de choses qui peuvent expliquer le succès. Je crois que c'est comme tous les bêtes stellaires, ils sont lus avec des grilles de lecture différentes. Il y a la grille de lecture conte de fées, il y a la grille de lecture fantasy, mais il y a aussi la grille de lecture univers numérique, etc. On ne peut pas trouver qu'une seule raison du succès.
Une dernière question. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et bonne suite d'après-midi. Et merci, un grand merci à nos intervenants. Ça marche pas mal, ça.
Ah oh, oui, il y a énormément.
Pourquoi vous restez là ? Vous pouvez j'ai un autre chevalet, parce que je vais prendre. Changer de chevalet.
Donc je vous repasserai après. Voilà.